Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale donne la parole au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif, qui dirige la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation déployée dans le pays. La MINUSMA qui doit relever d'importants défis, notamment sécuritaires, alors que la mise en œuvre de l'accord de paix conclu il y a un an prend du retard. Aussi, pour faire le point, 4 mois après sa prise de fonction, le représentant spécial s'est prêté au jeu des questions-réponses avec Karim Djinko et Mam Diaradio de Radio Mikado, la radio de la MINUSMA. Il réagit d'abord à l'arrivée prochaine d'un bataillon d'escorte de convoi.
Aujourd'hui, la MINUSMA est comptabilisée comme l'une des missions qui a connu le plus grand nombre de victimes en termes de morts ou de blessés. Le constat est que la majorité de ces vies humaines que nous perdons, et je m'incline devant leur mémoire, sont dues principalement à la pose des mines et autres AIDI qu'ils rencontrent souvent lors de leurs opérations. Le bataillon de logistique de convoi aura à répondre à 2 préoccupations majeures. La première, c'est que la région du Nord est une région très vaste. Les routes sont difficiles. Nous sommes obligés de nous ravitailler souvent par des convois assez lourds. Et souvent, ce sont les voitures qui accompagnent ces convois qui tombent dans des mines ou des AIDI, qui nous coûtent en termes de matériel au niveau de nos voitures et qui nous coûtent aussi en vies humaines. En plus, ça nous mobilise une grande partie de nos forces qui devraient être déployées ailleurs. Mais là, par manque de logistique, on est obligé d'affecter une bonne partie de nos militaires pour faire ce travail qui n'est pas le leur. Le rôle justement de ce bataillon d'escorte de convoi, c'est qu'il est spécialisé, il est outillé et les gens sont formés pour cela. Donc, ça va nous permettre de libérer ces militaires que nous chargeons pour cette mission. Et deuxièmement, avec l'espoir surtout, que ça va nous permettre à ce qu'on ne perde pas des vies humaines telles que nous le connaissons maintenant. Donc, c'est un outil extrêmement important. Ça n'existe pas dans tous les pays, ça n'existe pas dans toutes les missions. Il a fallu beaucoup de négociations, beaucoup de persuasions de part et d'autre pour qu'on ait finalement ce bataillon de logistique de convoyage qui va être opérationnel d'ici le mois de juillet. Et en tout cas, pour nous, ça sera un grand changement dans l'accomplissement de notre mission.
Il s'agit d'un ajout d'hommes et de moyens matériels à ce qu'on a déjà.
Exact. Moyens d'hommes et ajout de moyens également, mais surtout d'une spécialisation, des spécialistes dans un domaine de pointe assez précis, tels que les mines, les AIDI, ces autres. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui est importante que ça va faire.
Monsieur le représentant spécial, le camp de Kidal a subi une attaque en février dernier, vous le savez. Comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ces attaques terroristes et jusqu'où le dispositif actuel peut-il être renforcé?
Votre question au sujet de ce qui s'est passé à Kidal le 18 avril me donne l'occasion de lancer 3 messages. Le premier, c'est à l'endroit des parties signataires, à savoir le gouvernement, la plateforme et la CMA, pour leur dire qu'il est temps d'agir. Et tout retard renforce le camp de ceux qui veulent échouer l'accord de paix. Je l'ai dit, je le répète, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 camps. Celui de la paix, qui est constitué par le gouvernement et ses partenaires qui ont signé, et il y a le camp des terroristes qui, lui, a juré de faire échouer cet accord. Donc, faisons tout pour qu'on puisse aller à une mise en œuvre effective, rapide, de toutes les clauses de cet accord. Le deuxième point, c'est par rapport aux populations du Nord de façon générale et à ceux de Kidal de façon particulière. En leur disant que ce qui s'est passé à Kidal le 18 n'est pas acceptable, n'est pas tolérable. Et ça démontre que de plus en plus, ils sont réceptifs plutôt aux ennemis de la paix qu'à ceux qui sont pour une paix durable dans les régions du Nord. Et donc mon message pour ces populations du Nord de façon générale et à ceux de Kidal en particulier, c'est de leur dire de croire à cet accord. J'ai vu tous les anciens accords qui ont eu lieu. J'estime que cet accord qui a été signé entre le 15 mai et le 20 juin 2015 apporte tout un arsenal de mesures qui feront en sorte que le plus grand bénéficiaire de cet accord sera les populations du Nord. C'est une erreur pour eux d'être plutôt du côté du camp de ceux qui veulent faire échouer cet accord. Il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils essaient de s'approprier cet accord. C'est d'abord pour eux, c'est d'abord pour la paix, pour la stabilité et surtout pour qu'eux, ils essaient d'avoir toutes les dividendes de la paix qui jusqu'à là leur manquent tant et qui ont fait qu'ont été toujours à la base des différentes crises successives que nous avons connues dans le Nord. Mon troisième message, c'est par rapport à la communauté internationale. C'est de ne pas se décourager et de ne pas dire que ça fait un an que l'accord n'a pas connu de progrès significatifs et qu'ils vont se lasser. Non, il faut continuer d'être à côté du Mali, il faut continuer d'être à côté des populations maliennes parce que j'estime que cet édifice qui doit constituer la paix, pour qu'il soit solide, pour qu'il soit durable, a besoin d'un socle assez fort. J'estime que cette année, que beaucoup considèrent comme une année de perdu, je ne la trouve pas perdue. Elle nous a permis aujourd'hui de poser les bases de cet édifice, un socle fort sur lequel nous devrons maintenant bâtir le reste pour qu'il y ait suffisamment de chambres pour que les uns et les autres puissent s'y abriter.
Est-ce que vous comprenez les motivations des marcheurs, des initiateurs de cette marche de Kidal?
De toutes les façons, rien ne peut justifier une marche de ce genre contre des casques de maintien de la paix. Et surtout, rien ne peut justifier qu'on utilise des enfants comme boucliers pour accomplir des tâches qui sont contre des gens qui sont venus censés plutôt aider, accompagner, faire la paix. Moi, je détiens des images qui montrent que des enfants ont été enlevés de leur école. On les a mis dans des voitures pour les amener au lieu de manifestation. C'est intolérable. Je détiens des images que des gens sont venus avec des cocktails Molotov. C'est inadmissible. Ça veut dire qu'il y a une volonté de brûler, une volonté de détruire. Dans tous les cas, j'ai dit qu'il y a eu quand même des morts. Et je ne peux pas oublier les morts. Toute mort est pour moi tragique, tragédie. Et j'ai dit tout simplement que de toutes les façons, nous avons déjà fait une enquête préliminaire. Nous sommes en train de faire une enquête plus approfondie qui va nous déterminer la cause de cet incident, mais qui va nous déterminer qui a causé la mort de ces deux pauvres innocents. Et de toutes les façons, la MINUSMA va mener cette enquête dans toute transparence et prendra sa part de responsabilité, en toute responsabilité, le moment venu.
Cantonnement, les premiers camps sont en train d'être construits et attendent toujours d'accueillir les premiers ex-combattants. Or, les listes n'ont toujours pas été fournies par les groupes armés. Est-ce qu'il faut croire à la sincérité de ces groupes d'aller sans calcul au cantonnement?
Vous savez, en politique, c'est difficile de dire qu'on ne fait pas de calcul. Mais j'ose croire tout simplement que la bonne foi, la sincérité qui a poussé les uns et les autres à signer les accords, à continuer à discuter, demeure. J'essaie plutôt de croire à cette bonne foi, à cette sincérité. Nous regrettons douloureusement qu'il y ait eu tous ces retards. Comme vous l'avez si bien dit, bientôt les trois premiers camps seront déjà disponibles. Un camp contient 750 combattants. Une tente dans ce camp est prévue pour 6 combattants. Ce qui fait qu'on aura pour les 750 au moins 125 tentes dans ce camp qui contient une infirmerie, qui contient une salle sur laquelle on va faire le tri parce qu'il y aura un enregistrement biométrique, il y aura un grand magasin pour stocker les armements et autres, une partie qui sera pour les toilettes. Et nous osons croire qu'une fois la loi sur les autorités intérimaires promulguée, que le processus va s'enclencher, les patrouilles mixtes, l'opérisation du MOC, le cantonnement et ainsi de suite. C'est pour cela que j'adresse une fois encore un message aux différentes parties à l'accord dire que ok, nous avons tous aujourd'hui devant nous posé comme obstacle la mise en place des autorités intérimaires. J'espère que d'ici très peu de temps, la loi soit promulguée, que les partis seront prêts pour donner le nom de ceux qui vont les représenter au niveau des exécutifs locaux et que tout le processus va s'enclencher. Donc, je demeure optimiste quant à ce qu'il y ait des présences effectives dans ces camps que nous avons prévus pour accueillir des gens pendant 3 mois.
Vous avez adressé un message à la communauté internationale. Est-ce que vous sentez de l'impatience face à la lenteur du processus au Mali ? On sait que les crises se multiplient dans le monde et la patience de la communauté internationale n'est pas éternelle.
Autant je constate des interrogations, peut-être un début d'impatience, il ne faut pas les nier, mais je suis toujours encouragé par cette attention toute particulière sur le Mali. Jusqu'à là, en tout cas, les regards sont énormément tournés vers le Mali. Je le constate à travers les différentes visites où je ne passe pas une semaine sans qu'il y ait quelqu'un de la communauté internationale qui vienne ici au Mali, qui nous interroge sur la mise en œuvre de l'accord, qui nous interroge sur l'avenir de ce qui doit se faire, sur même en quoi ils peuvent être utiles, en quoi ils peuvent contribuer. Le Conseil de sécurité, sa visite ici, la dernière visite de 2 ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne et de la France. Et jusqu'à ce point, de tous les dossiers qui passent au niveau du Conseil de sécurité, j'ai la certitude que le dossier malien est le seul sur lequel il y a un consensus global. Mais j'ai dit, il ne faut pas non plus croire que c'est éternel. Les crises se multiplient. Les zones, aujourd'hui on a la Syrie, demain c'est la Libye, demain c'est d'autres priorités. Donc c'est pour cela, une fois de plus, je réitère mon appel, pas tant à la communauté internationale, elle va accompagner le Mali, mais aux acteurs maliens pour dire que ce regard, cette attention, ce soutien n'est pas éternel et que nous devrons tout faire pour qu'on aille vers la mise en œuvre effective de l'accord de paix.
Est-ce que vous attendiez à votre arrivée à la tête de la MINUSMA en janvier dernier à ce que ce processus de paix bouge aussi lentement, de l'avis de nombreux observateurs qui pensent que ça n'avance pas assez vite ?
Il est vrai que nous avançons pas vite, mais il y a quelque temps, nous craignons que nous n'avançons même pas. Quand on voit d'où on vient, comment le Mali était en 2012, 2013 lors de l'intervention de Serval, par la suite l'arrivée de la MINUSMA, on peut dire aujourd'hui que le fait que les mouvements ne s'étirent pas avec le gouvernement, que le cessez-le-feu est respecté, que les mouvements entre eux-mêmes sont en train d'arranger leurs petits différends, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux et qu'ils sont un handicap majeur pour la mise en œuvre de l'accord, qu'ils arrivent à s'entendre. Il y a eu la rencontre d'Anéfis, il y a eu dernièrement les rencontres au niveau du Kidal, d'autres qui ne sont pas souvent diffusées au niveau de la presse. Je crois que c'est des signaux positifs. Je déplore qu'on n'a pas si avancé sur des choses plus fondamentales, mais comme je l'ai dit, je répète toujours ma phrase qui consiste, nous avons maintenant des fondations assez solides, j'émets l'espoir que le reste de l'édifice va prendre corps.
Monsieur le représentant spécial, comment porte-t-on sur ses épaules la charge d'une des missions les plus difficiles au monde, au niveau humain ?
C'est vrai que le poids est lourd. Les attentes sont nombreuses, mais c'est quand même un défi qui mérite d'être relevé, une expérience qui mérite d'être vécue. Et j'avoue que je suis à l'aise, que je me passionne pour ce que je fais. J'avoue que j'y mets mon cœur et mon énergie, évidemment avec tous les staffs, qu'ils soient militaires, civils ou police. Vous autres, hommes des médias qui vous nous accompagnez, je crois que c'est le lieu de louer les sacrifices de tout ce monde qui se sacrifie, qui se consacre et qui se passe pour ce qu'il fait. Je ne suis qu'un élément de cela. Je ne fais qu'animer. À mon arrivée, je leur ai dit la chose suivante. Je sais que si on échoue, ça sera ma responsabilité. Mais si on réussit, ça sera la responsabilité de l'ensemble. Faisons en sorte qu'on réussisse ensemble.
Voilà, fin de ce magazine Escale consacré cette semaine à la contribution des casques bleus de l'ONU au Mali. Un magazine présenté et préparé par Jérôme Longuet avec la coopération de nos confrères Karim Djinko et Mam Diara Diop de Radio Mikado, la radio de la MINUSMA, mais aussi avec la complicité à New York de Florence Westgaard. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.